Cube Radio.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, c'est jeudi, puis j'avais envie de commencer l'émission avec un petit sourire, parce que bon, les nouvelles sont assez mauvaises un peu partout, dans toutes sortes de domaines, mais quand on a l'occasion d'avoir un petit sourire, pourquoi pas? Écoutez, pauvre lui, ce député fédéral, William Amos, qui a été surpris flambant nu pendant la période des questions. C'est quoi l'idée de se promener tout nu dans son bureau? Il dit évidemment qu'il savait pas que la caméra de son ordinateur était ouverte. Il me semble que c'est quand même Zoom 101. Excusez-moi, je la trouve tellement drôle. Pauvre lui, c'est quand même Zoom 101 où on le sait qu'il faut jamais faire soit se décrotter le nez, soit se gratter les fesses, soit surtout pas se promener tout nu ou à moitié nu quand il y a, vous savez, la petite caméra intégrée dans notre ordinateur. On se tient loin de tout ça. On fait attention. Donc, lui, il aura appris à ses dépens. On peut vraiment dire que dans ce cas-là, il s'est fait prendre les culottes baissées. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un très amusé. Ben, voyons donc.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Hier soir, au souper, mon mari et moi, on a eu une grande discussion avec mon fils de 13 ans au sujet des relations de la police avec les différentes communautés. Et mon fils, qui a seulement 13 ans, était très rapide à condamner les policiers qui sont trop vite sur la gâchette. Et moi et mon mari, on disait à notre fils de 13 ans, ben, on va peut-être attendre les résultats d'une enquête en bonne et due forme, avant de poser un diagnostic, avant de déclarer les gens coupables. Ben, des fois, je regarde la société au grand complet, puis j'ai l'impression que la société au grand complet est un enfant de 13 ans à qui il faut expliquer des choses de base. C'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui avec mon ami et collègue Joseph Facal. Bonjour, Joseph.
Bonjour, Sophie.
Qu'un enfant de 13 ans, de façon péremptoire, décide telle personne est coupable, telle autre est innocente, c'est une chose. Mais quand on lit dans un journal comme Le Devoir des gens déclarer de façon péremptoire que la police est forcément à la défense d'un système patriarcal, c'est un petit peu enfantin.
Oui, si on veut, mais le propre du discours idéologique, c'est qu'il carbure évidemment à la simplification outrancière qui, effectivement, des fois, prend des allures de retour à l'enfance. En fait, quand tu nommes Le Devoir, je crois que tu faisais référence très précisément à un article paru, je crois, avant-hier, dans lequel une dame disait que, par essence, par fonction, la police doit être, et je cite, « raciste, patriarcale, capacitiste, homophobe et transphobe ». Et derrière, évidemment, ce galimatia, il y a un simplisme, oui, qui équivaut souvent à celui d'un enfant de 13 ans. C'est fou comme on peut utiliser le jargon pour dire des conneries.
Oui, alors parce que je continue, donc cette dame qui s'appelle Mariam Kaba et que tu cites dans ton excellente chronique de ce matin, elle dit « perpétuer un État capitaliste, suprémaciste blanc ». Et si cet hétéro-patriarcal implique de cibler, contrôler, contenir certains groupes. Donc là, j'avoue que moi, je veux bien être ouvert, là, être ouverte, puis tu sais, me coltiner à toutes sortes de nouveaux vocabulaires. Mais j'avoue que le si cet hétéro-patriarcal, c'était la première fois que je l'entendais. J'ai même encore de la difficulté à le prononcer. Alors, on va le décortiquer ensemble. Cis, donc comme cisgenre. Hétéro, donc hétéro-normatif. Là, on reproche à la société de n'en avoir que pour les hétérosexuels et de brimer les homosexuels, et patriarcal, ben, ça se passe de définition. Donc, on met tout ça dans le même paquet, et évidemment, la police est coupable de ça, parce que c'est bien connu, dans la police, il n'y a que des hommes blancs hétérosexuels.
Écoute, Sophie, tu faisais référence il y a un instant à ton fils de 13 ans. Je dois t'avouer, bien honnêtement, que le wokisme nous impose un nouveau vocabulaire qui a nécessité que moi, je demande à mon fils de 23 ans, peux-tu s'il te plaît m'expliquer que veut dire tel ou tel mot? Et moi-même, je me fais mettre au courant de ces nouveaux développements idéologico-linguistiques. Mais évidemment, derrière l'écran de fumée, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup de militants, la police est, quoi qu'elle fasse, toujours coupable. En fait, ces gens, à chaque tragédie, n'ont pas besoin d'une enquête. Ils savent toujours. Et là, évidemment, ils puisent dans un bagage connu d'avance, privilège blanc, profilage, racisme, surréaction, indifférence, que sais-je. Et en fait, ces gens ne se sont jamais demandé une minute. Qu'est-ce que c'est la vie quotidienne d'un policier? Ils sont évidemment totalement aveugles au fait que non, les policiers ne sont pas tous blancs, il y en a de toutes les couleurs, et bien entendu, y a-t-il des policiers racistes? Oui, comme il y a des pâtissiers racistes, des plombiers racistes et des professeurs racistes. Mais dire évidemment que toute l'institution est intrinsèquement de A à Z raciste, ben c'est tout simplement ridicule. Sauf que veux-tu, Sophie? Nous vivons à une époque où, si le ridicule tuait, il y aurait une hécatombe. Mais on y survit. Et on peut même faire de belles carrières. Et on peut même obtenir des doctorats en ridiculologie de nos jours.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que penchons-nous deux secondes, hein, même si c'est pas relié, c'est un petit peu relié quand même, à cette affaire récente, Monsieur Camara qui avait été faussement accusé de s'en être pris à un policier. Ben le policier en question s'appelait, il s'appelle encore, Sanjay Vig, donc certainement pas un tremblé de souche, et ça avait posé toutes sortes de dilemmes à nos petits amis woke et à nos petits lapins offensés, parce que on avait là un cas où les policiers s'étaient montrés solidaires parce que un des leurs avait été attaqué, et donc on était plus du tout dans le narratif des vilains policiers blancs qui s'en prennent à un membre des minorités, parce que précisément le policier à la défense duquel ils se sont portés n'était pas un policier blanc de oui. souche. Alors là, ils étaient tout perdus, mes petits woke, là, bou 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 bou, ils savaient plus quoi dire, parce que ils étaient tout mélangés, ça marchait plus dans leur narratif, là.
Mais évidemment, le problème, c'est que au-delà de ces niaiseries idéologiques, il y a évidemment des conséquences réelles. Alors évidemment, c'est pas comme si la police, évidemment, restait indifférente. Non, maintenant, il y a des caméras. Tu vois, lors de l'incident survenu l'autre jour à Minneapolis, Dante Wright, la policière, portait effectivement une caméra. Ensuite, évidemment, c'est ce nouveau débat pas seulement autour de Valérie Plante, mais un petit peu partout sur enlever les armes. Après ça, il y a le débat sur définancer la police, autrement dit, lui enlever ses budgets. Ça fait évidemment des décennies qu'on a pris le virage de la police communautaire, mais ce n'est jamais assez. Quand tu oublies, évidemment, que la job principale de la police, c'est de protéger les innocents. Et encore une fois, je l'ai écrit encore ce matin, dans beaucoup de ces quartiers chauds, il y a une majorité silencieuse qu'on n'interviewe jamais, qui, elle, en a assez des gangs de rue, et qui, elle, se dit, plus la police est critiquée, moins elle ose intervenir, plus ça livre aux mains de ces petits voyous des familles ordinaires qui veulent simplement élever leurs enfants et aller travailler. Et je soupçonne que si on faisait une enquête allant au-delà de ces leaders communautaires autoproclamés et souvent démagogiques, on trouverait en fait des pères et des mères qui se soucient de leurs enfants et qui savent qui sont leurs vrais alliés.
Mm-hmm. Et c'est intéressant, t'as tout à fait raison, je te trouve très courageux d'avoir écrit la chronique que tu as écrite ce matin. Je veux juste encourager tout le monde à aller entendre, quel drôle de lapsus, à aller entendre une entrevue que j'ai faite hier avec Paul Laurier, qui est un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec et qui réagissait à cette idée lancée en fin de semaine par les militants, les partisans du parti de Valérie Plante, de désarmer la police, et qui disait c'est non seulement irréaliste, mais c'est complètement farfelu et ridicule, quand on sait que dans les rues du Québec maintenant il y a des jeunes de 14 et 15 ans qui se promènent avec des armes, et que la frontière est très poreuse avec les États-Unis, qu'il y a plein d'armes illégales qui circulent. Et c'est quoi cette idée-là de désarmer la police au moment où on en a le plus besoin? Donc parfois, la gauche arrive avec des idées d'un angélisme, d'une espèce de vision de l'être humain comme étant vraiment des petits anges qui flottent, une vision très câlinours de la société.
Oui, et en fait, Sophie, c'est un cas particulier d'un phénomène plus général, qui est que si tu prends une proposition comme celle-là, et que tu faisais un vrai sondage scientifique pour la tester, ce genre d'idée folichonne n'aurait pas 5% d'appui. Mais, si tu veux, l'écosystème médiatique donne à ces niaiseries un écho, ça décuple, et il y a véritablement un débat public qui s'engage, et fréquemment, il arrive que les institutions plient et adoptent en fait des politiques qui ne vont pas du tout dans le sens de ce que souhaite la majorité. Mais évidemment, cette majorité, elle n'est jamais invitée à Tout le monde en parle, et elle n'écrit jamais des papiers d'opinion dans Le Devoir.
Très, très, très bon point. Alors écoute, une excellente chronique ce matin. Je veux revenir absolument, Joseph, sur ta chronique de samedi, qui parlait des bonnes raisons donc pour le cégep francophone au Québec. Peut-être avant même de rentrer dans tous les détails de cette discussion et des dix raisons, est-ce que tu peux résumer ta pensée de façon claire pour quelqu'un qui peut-être se dit « ben pourquoi on parle du cégep en français? En quoi c'est un enjeu? » Quelqu'un qui, par exemple, serait très réticent ou très cynique par rapport à ce dossier-là, explique-nous pourquoi c'est important, pourquoi on en parle encore aujourd'hui?
D'abord, on en parle encore aujourd'hui parce que au rythme où vont les choses, il y aura bientôt, oui, plus d'étudiants au cégep anglophone que francophone à Montréal. Au rythme où vont les choses, il y aura bientôt plus d'étudiants collégiaux dans les cégeps anglophones du Montréal métropolitain que francophones. L'idée souvent entendue est « mais c'est normal, ils veulent apprendre l'anglais ». Faux. Les étudiants francophones qui vont dans les cégeps anglophones parlent déjà l'anglais. Ce qu'on sait, ils nous le disent, on a les chiffres, c'est qu'ils aspirent ensuite à travailler et vivre en anglais. Autrement dit, le cégep anglophone est un puissant vecteur d'anglicisation, donc, si tu veux, d'assimilation. Mm-hmm. Il ne s'agit pas de savoir si on est pour ou contre l'apprentissage de l'anglais, mais bien entendu que oui. Sauf qu'il y a eu 11 ans d'enseignement primaire et secondaire d'anglais à cet égard. Et évidemment, quand on sait que le cégep puis l'université sont, si tu veux, les formateurs, les dessinateurs du marché du travail futur, eh bien, écoute, une langue comme le français qui se marginalise dans les études supérieures et dans les emplois les plus lucratifs est une langue qui se folklorise, qui se marginalise, qui disparaît. D'ailleurs, en passant, est-ce que tu connais beaucoup de sociétés, toi, où la langue de la minorité est, écoute, c'est pas compliqué, Sophie, le plus gros cégep du Québec est anglophone. C'est-tu pas fou, Red Dawson? Le plus gros cégep du Québec est anglophone. Et, pas plus tard qu'hier, notre plus éminent chercheur dans le domaine, Frédéric Lacroix, celui qui a écrit le livre « Pourquoi la loi 101 est un échec », titre douloureux mais ô combien vrai, me faisait parvenir un courriel dans lequel il me disait que, juste par rapport à l'an dernier, cette année, les inscriptions à Dawson augmentent de 16% par rapport à l'an dernier. Oui, 16%. Et les applications. Et le nombre d'applications pour le programme de sciences augmente de 27%. Le nombre de demandes pour y rentrer est en hausse de 27% en sciences par rapport à l'an dernier. C'est une véritable ruée vers le cégep anglophone qui fait qu'à vitesse grand V, les francophones sont en train de devenir minoritaires dans la région métropolitaine. Et désolé pour les gens hors de la région métropolitaine, mais l'avenir du Québec, c'est dans la métropole qui se joue.
Oui. Et, bon, tu utilises plusieurs arguments dans ton texte. Un de mes préférés, c'est de dire, ben, si on veut vraiment, en effet, que nos jeunes parlent mieux anglais, ben, offrons-leur des meilleurs cours d'anglais au primaire
et au secondaire.
Et au secondaire.
Le plus invraisemblable, oui, c'est que les cégeps francophones, les universités francophones, constatant l'hémorragie, que font-elles? Oh, mon Dieu! Ben, on va se mettre à offrir, nous aussi, l'anglais. Donc, autrement dit, au lieu de lutter, elles aggravent elles-mêmes le problème. If you can't beat them, join them.
Tu
réalises que l'idée d'assujettir les cégeps à la loi 101, qui, il y a 10 ans, 20 ans, était une idée d'hurluberlu, est en train aujourd'hui de recueillir de plus en plus d'appui parce qu'on réalise que la loi 101 nous a donné un faux sentiment de sécurité.
Voilà.
Le tapis est en train de nous glisser sous les pieds et Sophie, démographiquement, le point de non-retour sera très vite atteint. La prochaine étape, c'est l'acadianisation du Québec.
Ben, écoute, on met ta chronique en complément avec ma chronique d'hier, où je parlais de cette façon insidieuse dont l'anglais est vraiment en train de contaminer et d'empoisonner le vocabulaire de tout le monde. Et je veux signaler cette série de publicités de la Fondation pour la langue française où ils nous donnent des exemples. Tu sais, en 2010, on disait j'ai perdu mes clés, mettons, et puis maintenant on dit j'ai lost mes clés. Ben, en 2040, on va dire I lost my keys. Je regarde, je veux dire, il y a une jeune chef que j'aime beaucoup, Geneviève Evrel, elle a Miss Sushi, elle a son magazine, puis je salue Geneviève, je l'aime beaucoup, mais je regarde la couverture de son nouveau magazine, des recettes full faciles. C'est quoi ça, des recettes full faciles?
Ah non, écoute Sophie, si tu regardes un petit peu des vieilles photos du Montréal des années 50-60, si tu regardes les débats qui se faisaient à ce moment-là, si tu regardes l'omniprésence de l'anglais à l'époque, on a lutté contre cela pendant 40 ans. Et donc aujourd'hui, la situation donne le sentiment d'un immense recul à ce qu'on avait jadis connu. Je me dis, tout ça pour ça? Et c'est fou. As-tu remarqué? Regarde dans nos médias, regarde les articles écrits par de jeunes journalistes de 25 ans. As-tu vu le retour de l'expression « la belle province » qui était sur nos plaques d'immatriculation avant le « je me souviens » arrivé en 1976? Nous vivons une immense régression linguistique, culturelle et politique qui exige un réveil urgent de ceux qui croient encore au Québec français.
Écoute, je pense que je vais prendre ta dernière phrase et je vais la faire jouer en boucle pour réveiller tout le monde et je te quitterai simplement en disant oui, j'ai remarqué, mais ce qui me frappe le plus chez les chroniqueurs chroniqueuses de la vingtaine ou de la trentaine, c'est l'omniprésence des mots anglais, mon boyfriend, mon BFF, c'est rempli d'expressions anglaises ou de français écrit tout croche, c'est absolument désolant. Je connais une couple de personnes qui sont dans leur tombe en ce moment et qui doivent faire des tours complets de Camille Laurent à René Lévesque en passant par Félix Leclerc. Mais bon, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup, Joseph, puis j'encourage tout le monde à aller lire tes deux chroniques. Merci, merci Joseph.
Au revoir, bonne semaine.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
La belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oh, oh, la belle vie, on s'en lasse, on est triste.
Quelle voix de crooner, donc... Michel Louvain qui nous a quittés hier soir, j'avais envie d'en parler avec Patsy Galland, chanteuse et comédienne qui l'a bien connue. Patsy, bonjour.
Bonjour. Excusez-moi, j'avais un autre téléphone en même temps. Oh, quelle nouvelle triste. Sophie,
oui.
C'est pas trop vite, comme si on n'avait pas assez de mauvaises nouvelles en ce moment. Vraiment, j'entends sa voix puis j'ai envie de pleurer. C'est un homme extraordinaire. Comment ça se fait qu'il est parti si vite? J'ai fait un show avec lui il y a quelques mois en direct de l'univers. Il avait l'air complètement parfait. Moi, je connais Michel depuis 1960. T'sais, on a commencé à Radio-Canada sous la tente. c'est fou. Bon, j'étais pas un ami qu'on allait dîner ensemble tout le temps, mais on se voyait tout le temps. Quel homme, mais la classe, généreux, discret. Tu sais, quand il montait sur scène, ce gars-là, là, immédiatement, il mettait les pieds sur scène, les gens applaudissaient.
C'est fou, hein?
Il a tellement été aimé. C'est une icône. On a perdu quelqu'un de grand, puis d'une gentillesse, puis il y avait tellement de talent. Je trouve qu'on n'a pas assez... développer son talent. Vous rappelez quand il a fait Gangnam Style, là?
Oui, Gangnam Style, oui.
Tellement bon, puis tellement drôle. Et je te dis, si on l'avait pris comme acteur, ça aurait été un Jean Marais. Il était beau, il avait des beaux yeux. Son sourire, on l'oubliera jamais. Sa voix, il avait une voix unique, bien sûr. Et comme le monde l'aimait, il a passé à travers toutes les générations. C'est encore aujourd'hui, il remplissait les salles.
Oui, c'est ça, parce que quand on parle d'une carrière comme la sienne et comme la vôtre, Patsy, c'est que la clé, c'est de durer. C'est pas tout le monde qui est capable de durer, de rester pertinent. Dans son cas, il a réussi à se bâtir un public et à le conserver, parce que ça se transmettait d'une génération à l'autre. C'est ça qui est particulier.
C'est magnifique. Sa musique est à la mémoire des gens et il y a toujours son public, même dans les années 70, quand la musique a changé, puis il y avait Beau Dommage, puis il y avait tout le monde, puis après le disco est rentré. Il restait là quand même, c'était discret, mais les gens l'ont toujours écouté, il y avait toujours leur disque à la maison, il allait toujours les voir dans une petite salle paroissiale ou dans un théâtre, puis après ça, il est revenu comme 100 000 à l'heure, tu sais. Jusqu'à la fin de sa mort, écoute, il devait faire le casino. Martin Leclerc, qui est son gérant, doit être dévasté. Puis en plus, imagine-toi avoir un cancer de l'œsophage pour un chanteur. Mais c'est injuste. Mais au moins, je pense qu'elle peut se faire parce que c'est un choc. Il est rentré à l'hôpital, puis deux semaines plus tard, il est mort. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, mon Dieu, que la vie est courte, puis qu'on n'est pas éternel, puis... Puis il en reste très peu comme lui, tu sais. Vraiment, on a perdu quelqu'un de grand, puis la nation le pleure, le Québec le pleure. Mes condoléances à son mari, à sa famille, à ses sœurs et à Martin Leclerc qui prenait soin de lui. Vraiment, on l'oubliera pas. Sa voix va toujours être là, puis il a tellement donné. Moi, je le rencontrais dans des télétons tout le temps. Il a tellement donné.
Généreux.
Il aimait ce qu'il faisait. T'as jamais entendu un mot mauvais de Michel Louvain. Jamais.
Mais c'est ça, l'imagine pas potiner ou parler dans le dos des autres. On l'imagine tellement élégant, tellement classe.
Et puis moi, je me souviens encore juste il y a 2 mois où, en direct de l'univers, je le vois-tu pas passer, salut, beau sourire. Puis moi, il me respectait beaucoup. Puis il disait, je le faisais rire, puis il disait, ah ben, ça c'est Patty, hein, c'est Patty. Et puis je le vois encore marcher dans le couloir en direct de l'univers avec son pantalon sur le bras, il s'en allait repasser son pantalon. Parce que vous savez, il fait ça depuis la nuit des temps. Il y a personne qui repasse le pantalon de Michel. Puis un coup qu'il l'a sur le dos, il s'assoit plus. Que ce soit 1 heure ou 5 heures, il est debout, puis il frippera pas son pantalon. Puis quand il est habillé, il n'y a pas un poil qui dépasse. Une classe, une gentillesse, généreux, il va vraiment nous manquer. Puis vraiment, ça me fait mal pour toutes ces femmes là, qui l'ont suivi, là, qui l'adoraient, qui le vénéraient, qui reposent en paix. Il a tellement donné. Merci Michel, mais il est parti trop tôt.
Mais j'aimerais ensemble qu'on se rappelle quand même ses débuts. Je lisais des textes sur lui. Donc on sait que son vrai nom c'est Michel Poulain. Mais vous rappelez-vous de ça, Patty, quand il a commencé, il a fait carrière sur différents noms, Mike Mitchell et aussi Mike Poulain. L'avez-vous connu à cette époque-là ou vous l'avez connu un petit peu après?
Peut-être l'ai connu, mais j'étais tellement petite, hein. Je veux dire, j'avais peut-être 9 ans, 10 ans, tu sais, fait que je faisais pas attention à ces choses-là. Pour moi, il a toujours été Michel Louvain. Puis quand j'entends Louise puis Ginette, tu pourrais mettre n'importe quel prénom à cette chanson et tous les prénoms vont marcher, tu sais. Puis la dame en bleu, on n'en parle pas. C'est, je sais pas comment ça fait qu'ils ont pas fait un film sur lui, puis comment il a pas été acteur, puis il y avait tellement de choses, puis mon Dieu qu'on l'aimait.
C'est vrai, comme comédien, il aurait eu cette prestance-là.
Il était beau. Moi, il aurait été un Jean Marais pour moi, tu sais.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, vous nous avez raconté ce souvenir-là, très rigolo, de lui qui se promenait en pantalon. On imagine...
Avec un pantalon sur le bras pour le repasser.
Oui, mais on imagine qu'il était pas en bobette, là, il y avait quand même son vrai pantalon.
Non, il y avait un autre complet aussi beau, là, mais celui qu'il a porté pour le show, il fallait qu'il soit repassé. Ah, oui. C'était incroyable. Je vois encore son sourire, puis j'ai dit, j'entends ça, vous faites jouer des chansons, puis ça me donne envie de pleurer. Imagine-toi le public qui l'adore, en tout cas. Il en reste plus beaucoup, hein.
Mais j'aimerais vous entendre aussi, Patty, sur un autre aspect, puis je trouve que c'est important d'en parler. Il y a aussi eu une forme de snobisme envers Michel Louvain, où peut-être des gens d'une certaine élite culturelle le considéraient pas autant que d'autres artistes. Est-ce que vous pensez qu'il en était conscient et peut-être qu'il en aurait souffert de ça?
Sûrement, et on souffre toujours des gens qui nous critiquent, mais ça fait partie du métier. On pourrait dire la même chose de Michel Richard, mais elle est toujours là, et puis on l'aime toujours. Et tu sais, le snobisme s'embarque pas dans le cœur des gens. Quand ils aiment quelqu'un, ils le montrent il y a rien qui va les arrêter. C'est quelqu'un qui c'est un homme de cœur, et puis on l'aimait comme ça.
Ouais. Donc des souvenirs, le mot qui revient le plus souvent, c'est son élégance, sa générosité, donc vraiment un gentleman comme on n'en fait plus. Et en même temps, quand je regarde les chansons qu'il chantait, et là tout récemment, donc quand il chantait La belle vie, c'est aussi une certaine époque, puis c'est surprenant justement ces valeurs là qui transmettaient qu'elles aient su traverser le temps.
Ben ça traversera toujours le temps, ces valeurs-là. Et on n'en a pas assez. Je trouve ça beau. Écoute, il faisait du traînet. Il touchait les gens simples et bons. Et aujourd'hui, je ne sais pas, il y a tellement de comment tu dirais ça, falseness,
il y a comment tu dis ça en français, de ouais, le manque d'authenticité ou le
oui, il était authentique, et Les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de légèreté aussi, surtout avec ce qui nous arrive. C'est tellement important, tu sais. Et d'avoir cet attachement à quelqu'un d'aussi vrai et d'aussi humble.
Ouais. La chanson préférée pour vous, votre chanson préférée de Michel Louvain, que Michel Louvain a interprété au fil des ans.
Mais moi, je chantais quand j'étais petite. Je me rappelle, j'habitais sur la rue Saint-Christophe, mais je me trompe toujours de prénom. Je sais pas si c'est Louise ou Ginette, mais Ginette, avec tes cheveux si blonds, Ginette ou Louise, tu ensorcelles tous les garçons. Tu pourrais mettre n'importe quel prénom, puis ça marcherait, tu sais.
C'était... c'est ça. Il y avait Sylvie, il y avait Lison, il y avait...
Avec tes cheveux si blonds, Sophie, tu ensorcelles tous les garçons. N'importe quel mot, n'importe quel prénom marche là-dessus.
Ouais, et c'est quand même particulier parce que au Québec, il y a toujours eu des périodes très marquées en termes musicaux. Tu sais, on a eu une période très yéyé, on a eu une période très des chanteurs à la guitare qui chantaient la chanson canadienne, la chanson française, et puis la période du disco. Et c'est quand même hallucinant que Michel Louvain qui était au-delà des modes, au-delà, tu sais, il aurait pu dire, bon, ben, moi, je vais faire du yéyé parce que c'est, tu comprends, il aurait pu dire, je vais travestir mon style ou je vais mettre une boule disco au-dessus de la tête puis je vais commencer à me déhancher comme Patty. Mais il est toujours resté avec son style à lui.
Oui. Puis il a resté fidèle à lui-même et fidèle à son public. Et le public lui a rendu.
Ouais. Donc une pensée évidemment pour ses proches. Patty, quand on voit comme ça la fin d'une époque, puis vous l'avez mentionné déjà qu'on vit une période de pandémie, déjà que c'est pas évident, c'est un coup dur pour vous là.
Ça tape le moral. Puis il y a un autre qui vient de partir, Michel Girouard, qu'on n'a pas parlé, tu sais.
Parlez-en.
Un autre qui était controversé et qui a quand même continué à travers le temps. C'est vraiment... on n'est pas éternel, hein?
Oui, mais parlons un peu, oui, justement, de Michel Girouard. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Ça fait deux monuments importants qui partent en peu de jours. Michel Girouard, on peut le regarder de deux façons. On peut regarder ça avec un petit sourire en coin.
Mais on peut l'aimer du tout, c'est ça?
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui a été extrêmement important, justement, pour la valorisation du showbiz québécois. Quand on s'est créé notre propre show business à nous, avec nos repères, nos vedettes...
Complètement. Le Jardin des Étoiles. Et c'était aussi un homme, un des premiers, qui a marié son pianiste. Il était extravagant. Vous imaginez que moi, je comprends tout à fait ça, hein?
je sais pas de quoi vous parlez, Patty.
Moi, j'ai toujours aimé, puis il m'a toujours adoré, Michel. Il était un des premiers à me défendre dans les journaux, là, du côté anglais, quand j'avais fait Canada Day, puis on m'avait descendu parce que Patty Galland fait le show de la fête du Canada, puis il m'avait défendu, tu comprends? Puis il m'avait dit, Patty a jamais fait de politique, elle est une chanteuse, elle a toujours été bilingue. Et je l'ai vu, moi, il est venu à ma fête il n'y a pas longtemps, chez Tonton Flingueur. Et puis, vous savez, c'est un homme très cultivé, peut-être qu'il y a des gens qui ne savaient pas, mais il voyageait le monde à travers ses émissions de radio et ses articles de journaux. Et oui, il était un peu, des fois, il était, dans les années 70, il avait pas la langue dans sa poche.
Ouais.
Mais il était juste, très souvent, il était juste. Puis il adorait les princes, les châteaux, puis, tu sais, cette fantaisie-là, et ça, je le comprends parce que je suis un peu pareil, mais Michel était quelqu'un de très cultivé et il adorait chanter. Écoute, moi, quand on allait prendre un verre ici à côté, il m'a chanté pendant je sais pas combien d'heures. Et c'était un érudit dans la chanson française. Il connaissait tous les mots de tous les chanteurs français. Il était vraiment extraordinaire.
Alors, un hommage aujourd'hui aux deux Michel, Michel Louvain, Michel Girouard, de la part de Patty Galland. Merci beaucoup. Je sais que c'est toujours difficile quand il y a des gens. Non, mais quand il y a des gens qu'on aime qui partent et qu'on est sollicité par les journalistes, on le fait bien sûr parce qu'on veut rendre hommage. En même temps, c'est difficile parce qu'on a beaucoup de peine. Alors merci d'avoir accepté de le faire aujourd'hui, Patty.
Merci, merci, mes sympathies à tous ces fans.
Merci.
Et sa famille et tout le monde, bien sûr.
Patty Galland. Oui, en effet. Patty Galland, donc chanteuse, comédienne, elle-même assez extravagante, qui rendait donc hommage et à Michel Louvain et à Michel Giroir. Et c'est vrai que quand on regarde ça, deux personnages qui partent comme ça en très peu de jours, c'est un coup dur.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Est-ce que vous êtes un peu perdu en ce moment concernant les directives sur le port du masque en extérieur? Est-ce que vous êtes un peu perdu en ce moment avec les informations contradictoires sur le vaccin AstraZeneca qui a été suspendu dans certains pays en Europe? Est-ce que vous êtes confus en ce moment de voir qu'il y a des gens qui se tournent les pouces dans les centres de vaccination? Bref, est-ce que vous y perdez un peu votre latin? On va peut-être retrouver un peu de notre latin en parlant avec Dr Roxane Borges da Silva. Elle est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Dr da Silva, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires en ce moment. C'est difficile de s'y retrouver. J'ai envie d'avoir votre avis d'expert à vous. Est-ce que on a raison de tant légiférer et de tant s'inquiéter et de tant encadrer le port du masque à l'extérieur, alors que le danger, il me semble, est beaucoup plus à l'intérieur?
En fait, vous avez raison, on a beaucoup de mesures qui apparaissent, ça change beaucoup, on a des annonces en point de presse qui sont plus cohérentes avec ce qui est dit après, on devient complètement mêlé comme population, si je peux dire. Par contre, il faut quand même admettre que la contamination à l'extérieur existe, même si on sait qu'elle est de l'ordre de 19 fois moins grande qu'à l'intérieur, elle est forcément plus élevée avec les variants qui sont plus contagieux, et on ne sait pas en fait dans quelle mesure. Donc, j'ai vu des situations où des voisins qui parlaient sur le trottoir ont été contaminés à cause du variant anglais, alors qu'ils faisaient pas de party, ils faisaient juste des discussions de trottoir entre voisins. Donc, c'est possible d'être contaminé à l'extérieur. Seulement, vous avez raison que pourquoi s'attaquer à un problème pour lequel on a peut-être 19 mois moins de contamination, alors qu'on a beaucoup plus de problèmes d'éclosion dans les écoles et dans les milieux de travail, pour lesquels on attend encore des réponses du gouvernement sur les mesures à mettre en place, particulièrement en lien avec les aérosols, la qualité de l'air dans les écoles, ou encore le suivi des mesures et des gestes barrières, des directives dans les milieux de travail. Donc, il y a des incompréhensions qui subsistent, en effet.
Parce que l'exemple que je donnais ce matin à mon collègue Pierre Nantel, je lui disais, écoutez, c'est un peu comme si on avait un patient qui a un cancer du poumon, mais qu'on met beaucoup, beaucoup d'énergie à soigner son ongle incarné. C'est pas que son ongle incarné n'est pas douloureux, c'est pas que ce soit pas important, mais on a des choses plus urgentes à combattre. Est-ce que ma comparaison est farfelue ou elle tient la route, docteur da Silva?
Non, votre comparaison est bonne. En effet, on comprend pas trop pourquoi. En fait, il y a des mesures qui ont été mises en place dans les écoles, par exemple, en fermant les classes tout de suite dès qu'il y a des variants un cas dans une classe. Mais, oui. Mais pourquoi ne pas axer sur des mesures qui soient plus macro, avec la ventilation dans les écoles, les aérosols, etc. Pourquoi s'attaquer à quelque chose qui, comme vous dites, l'ongle incarné, est une petite chose par rapport à un gros bobo qu'on a, qui est beaucoup plus large? Et pourquoi ne pas s'attaquer aux déterminants les plus grands de la contamination, des milieux où il y a le plus de contamination, c'est-à-dire les écoles et les milieux de travail? Est-ce que le gouvernement n'a plus de ressources pour s'attaquer à ces éclosions-là et du coup va taper sur des petites choses qui ont peut-être peu d'impact, mais qui pourraient avoir un effet, c'est sûr, parce que des personnes qui se contaminent dans un parc vont ramener ce variant dans les domiciles et multiplier la propagation après dans les écoles et les milieux de travail, c'est sûr. Mais on a du travail à faire aussi sur les milieux de travail et les écoles, c'est certain.
D'accord. Donc, c'est peut-être un cas où, excusez-moi encore d'utiliser une comparaison, mais quand il y a le feu dans la maison, quand il y a feu dans le toit, c'est pas vraiment le moment de se demander si on va mettre des géraniums rouges ou des géraniums blancs. Attaquons-nous plutôt au problème qui est vraiment le plus grave. Écoutez, je vois ce matin dans le journal, dans les journaux, en fait, des centres de vaccination désertés, des gens qui font de la vaccination, qui jouent au sudoku, au lieu d'être en train d'injecter les vaccins dans le bras des Québécois. Vous, comme intervenante, qu'est-ce que ça vous envoie comme message? Vous devez être découragée.
Mais en fait, là où je suis découragée, c'est qu'on sent qu'il y a des tensions entre les directives régionales et les directives nationales. Le gouvernement veut être équitable entre les régions et ne pas ouvrir trop vite à certains endroits, alors que on sent que, par exemple, dans la grande région de Montréal, ils seraient prêts à ouvrir à d'autres populations la vaccination et ils sont en attente de cette autorisation d'ouverture. Et c'est un peu dommage de se restreindre et de perdre du temps à vacciner des gens ou même à administrer une deuxième dose à certaines personnes qui sont en attente déjà de la deuxième, qui ont été vaccinées depuis un bout de temps et qui pourraient recevoir la deuxième dose. C'est un peu dommage de perdre ce temps-là et dans des guerres politiques, si je peux dire, ou des stratégies d'équité qui sont peut-être pas valables. Et quand on a des vaccins, vaccinons, puis ouvrons, ouvrons toutes les possibilités à maximiser la vaccination pour toute la population, maximiser l'accessibilité, la rapidité de vaccination. Donc oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a certaines incohérences. On comprend pas et on espère que le gouvernement va peut-être donner plus de pouvoir aux directions de santé publique régionales pour organiser leur flûte elles-mêmes et leur vaccination et qui a le droit et qui n'a pas le droit à la vaccination.
C'est ça, parce qu'il y a un côté très centralisateur qui est à la fois très paternaliste, c'est-à-dire qu'on en réfère constamment aux décisions qui sont prises, qui sont centralisées à Québec. Donnons de l'indépendance aux décisions régionales parce que ce sont elles qui sont le mieux à même de savoir quels sont leurs besoins. Il y a une nouvelle quand même qui a dû refroidir un certain nombre de gens. J'imagine quelqu'un qui est admissible à l'AstraZeneca et qui voit que, je pense, c'est au Danemark où on a carrément complètement suspendu l'administration de l'AstraZeneca. Est-ce que on a raison de s'inquiéter sur la base simplement de ce qui se passe au Danemark?
Non, il faut pas s'inquiéter, il faut aller se faire vacciner. Le vaccin AstraZeneca est comme le vaccin de Pfizer et même Johnson ou Moderna peut avoir des effets adverses, en fait des effets indésirables dans des cas extrêmement, mais vraiment extrêmement rares. Donc on peut pas se permettre d'arrêter de vacciner et de protéger notre population pour ces cas extrêmement rares qui, en plus, pour la plupart, ne sont même pas mortels. Ça se guérit très bien des thromboses. Donc, dans ce contexte, il faut vraiment pas hésiter, il faut pas avoir peur et en fait, tous les vaccins, tous les médicaments ont des effets indésirables dans des cas extrêmement rares. C'est normal. Donc, ça fait partie. On peut pas étudier la génétique de chaque individu pour savoir si ça va fonctionner avec les vaccins. Il peut y avoir toutes sortes de déterminants de ces thromboses-là et qui sont extrêmement rares. Donc, il faut vraiment rassurer la population et encourager la population à aller se faire vacciner. Et le comité d'immunisation canadien et québécois a vraiment raison de maintenir ce vaccin-là AstraZeneca au Canada et au Québec.
Oui. Ben écoutez, moi je me compte très chanceux, je me suis fait vacciner par AstraZeneca la semaine dernière. Je croise les doigts, pour l'instant tout va bien, mais c'est sûr que quand on a vu aussi le premier cas au Canada d'une thrombose et que c'était un cas au Québec, ça a dû quand même refroidir certaines personnes. Vous nous dites que il faut évidemment continuer la vaccination, que ce sont des cas extrêmement rares. À ce moment-là, ma question devient, docteur Da Silva, est-ce que il n'y a pas un problème de communication? Est-ce que le gouvernement communique suffisamment bien sur la balance des inconvénients, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de risques de mourir de la COVID que de mourir du vaccin contre la COVID?
Absolument. Non seulement beaucoup plus de risques de mourir de la COVID, mais aussi beaucoup plus de risques d'avoir des symptômes COVID longs. Et ça, c'est très, très pénible. C'est une vraie maladie chronique. Donc, Vous avez raison sur ces aspects-là. Vous avez certainement raison aussi qu'il faudrait peut-être plus sensibiliser la population, communiquer les bonnes informations, montrer les effets, en fait, la balance des risques et des bénéfices. Mais je ne sais pas comment le gouvernement pourrait faire ça, mais c'est sûr qu'on peut toujours reprocher toutes sortes d'affaires au gouvernement. Et en fait, il pourrait, en fait, avec M. Paré, déployer des publicités ou pour expliquer toutes ces choses-là dans des mots simples à la population et pour encourager à la vaccination, en effet.
Oui. Quand on voit que tous ces efforts-là, Dr. Da Silva, qui ont été mis, où on nous dit, depuis les débuts de la pandémie, on nous dit la porte de sortie, c'est les vaccins, les vaccins, les vaccins. Quand les vaccins vont arriver, ça va être une porte de sortie. Donc, quand on a su qu'il y avait des premiers vaccins qui étaient développés, on a tous poussé un grand soupir de soulagement en disant, bon, ça y est, la lumière est au bout du tunnel. Là, après, on s'est rendu compte que le défi, ça allait être d'arriver à vacciner tout le monde. Mais là, ce qu'on entend les derniers jours, c'est même une fois que la population va y avoir un nombre crucial de gens qui seront vaccinés, on sera quand même pas sorti du bois. Est-ce que tous ces messages-là, où on se réjouit, après ça on se déprime, on se réjouit, on se déprime, est-ce que ça va pas finir par user la résistance de la population?
Absolument, user la résistance, mais aussi user la résilience. Et en fait, il faudrait que le gouvernement envoie un message clair à la population qui explique qu'on est sur une crise de long terme pour laquelle on est dans une très grande incertitude pour la suite. Et selon moi, il faut arrêter de parler de bout du tunnel ou de milieu du tunnel.
Oui.
Parce qu'on est vraiment dans un... On est dans le tunnel et on ne sait pas à quelle station dans le tunnel on est, si je peux dire.
Si on fait une comparaison avec le métro, on ne sait pas... On sait qu'on veut arriver à Berry-UQAM, mais on ne sait pas si on est rendu à Papineau ou si on est rendu à Anjou. Bon, bref.
Exact. Donc, en fait, il faut vraiment faire attention par rapport à tout ça et préparer la population à tout ça et savoir qu'il y a tellement de paramètres qui sont incertains, que ce soit avec les variants, avec peut-être le besoin de vacciner tous les ans toute la population. On n'a aucune idée sur l'immunité, on n'a aucune idée sur... les variants qui vont apparaître, la réouverture des frontières, etc. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le virus a une certaine saisonnalité. Donc, en été, on peut plus vivre, si je peux dire, il y aura moins de propagation. Donc, dans ce contexte, en fait, il vaudrait mieux envoyer des messages particulièrement, plutôt que de rester d'être anxieux comme ça, à savoir si on va finir, sortir de la crise à un moment ou à un autre. Il vaudrait mieux envoyer des messages en expliquant qu'on est sur du long terme et qu'on ne sait pas encore où est le bout du tunnel, où est la station Berry-UQAM, et préparer la population à tout ça pour qu'on puisse tous planifier, par exemple, nos vacances d'été ou planifier sur du plus long terme.
Oui. Est-ce que quand on s'appelle Dr. Roxane Borges da Silva, est-ce qu'on planifie des vacances d'été pour 2021? Est-ce qu'on peut faire ça?
Mais en fait, personnellement, étant d'origine française, ça fait 2 ans que j'aimerais aller voir mes parents en France, mais je sais que je ne pourrais pas y aller cet été. Donc, j'ai absolument rien planifié pour l'instant pour mes vacances d'été. Donc, ça va être des vacances d'été dans la région de Montréal, sûrement, ou peut-être au Québec, mais il n'y a rien de planifié pour l'instant de mon côté, d'autant plus qu'on ne sait pas encore si les régions vont être réouvertes. Et puis, quand on veut louer un chalet, il est bien expliqué dans les conditions qu'on ne peut pas pour l'instant être plusieurs bulles familiales. Donc, c'est très difficile de planifier pour l'instant.
Oui, vous soulignez le fait que vous êtes d'origine française. Moi, vous le savez peut-être, moi aussi, je suis née en France, mais de famille canadienne, mais je suis née en France, j'ai de la famille là-bas, et ça va pas bien du tout en France. Non. Quand on se dit que c'est le pays de Pasteur, et que pourtant, il y a encore une très grande réticence à la vaccination, et aussi que la vaccination, ça a pris tellement de temps avant de décoller. Quand on regarde ça, c'est pas du tout réjouissant ce qui se passe là-bas.
Non, vous avez raison. Et en plus, non seulement il y a une réticence à la vaccination, mais également ils ont beaucoup de mal à contrôler la propagation des variants. Et il y a comme une espèce de fin de non-recevoir de la part de la population qui en peut plus des mesures et qui devient résistante à la fois à la vaccination, mais également aux mesures et également en fait qui a perdu de la résilience. Et il faudrait pas qu'on en arrive là, nous, également, et c'est ça. Et j'espère qu'ils s'en sortiront, évidemment, mais puisqu'ils commencent à vacciner quand même beaucoup plus rapidement qu'il y a quelques semaines, et j'espère qu'ils arriveront à convaincre leur population des bénéfices de la vaccination.
Oui. Docteur Da Silva, vous êtes beaucoup dans les médias, on vous entend beaucoup et vous êtes très généreuse de votre temps, de vos conseils, de vos réflexions. Il reste qu'à un moment donné, on doit arriver à un moment où on ne sait plus quoi dire parce que on tout simplement, on ne sait pas vers quoi on s'en va. Est-ce que vous avez des moments de découragement où vous arrivez à garder la tête haute et à garder justement cette résilience que vous nous souhaitez, nous, simples citoyens?
Oui, j'y arrive parce que j'aime mon travail et j'accorde beaucoup d'importance à diffuser de l'information et des bonnes connaissances et des bonnes informations dans les médias, surtout avec les dernières études qui évoluent très rapidement. Mais c'est sûr que ça prend plus d'énergie que ça en prenait il y a 6 mois pour maintenir cette résilience, et ça doit être pareil pour tout le monde dans la population. Donc, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression de toujours adopter la même chose dans les médias quand on est un expert comme ça qui fait beaucoup de médias comme moi. Mais il faut garder cette résilience-là.
Bon, je vous rassure, on n'a jamais l'impression d'entendre quelqu'un qui radote quand on vous parle, parce que vous avez vraiment le don de bien décortiquer la situation, de l'expliquer clairement, et je vous avoue que parfois, c'est vraiment ce qui manque du côté du gouvernement, des consignes claires, concises, constantes, une espèce de rigueur, disons ça comme ça, qu'on ressent pas tout le temps. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir très généreusement pris de votre temps pour venir discuter de toutes tes questions avec nous. Docteur Roxane Borges da Silva, vous êtes professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Au revoir.
Et là, oui, en effet, les nouvelles sont pas toujours faciles à encaisser, mais on garde le cap. Et moi, ce que je retiens de ce que vient de nous dire Dr Da Silva, c'est qu'il faut arrêter de placer une date ou de placer un échéancier pour cette fameuse lumière au bout du tunnel. Rappelons-nous simplement qu'on est dans le tunnel et qu'on est sur le long terme. Hein. C'est pas quelque chose là, qui va se régler rapidement au cours des prochaines semaines. Il faut être lucide, ni pessimiste ni optimiste, juste lucide. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain. Merci à Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation, William Boivin à la recherche. On se revoit demain.
Cube Radio.